Trois quarts d'heure pour débattre autour de l'actualité de la semaine avec des journalistes. C'est le rendez-vous de la tribune de la presse que vous propose Radio Capi. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce vendredi 24 avril 2015, le gouverneur de la province du Nord Kivu a affirmé mercredi dernier que les troupes de l'armée rwandaise ont envahi les frontières de Bunagana, Bukina, Rwasa et d'autres groupements du parc de Virunga au Nord Kivu en RDC. Et à Beni, la société civile dénonce l'incursion des hommes armés identifiés comme de l'armée ougandaise depuis 3 jours. Et puis l'opposition politique congolaise suspend sa participation aux élections provinciales, municipales et locales. Elle conditionne son retour à un certain nombre de préalables, notamment la révision du calendrier électoral, le décaissement des fonds nécessaires pour organiser les élections, et elle exige aussi l'enquête internationale et indépendante sur l'affaire fosse commune de Maluku. Alors tous ces sujets, nous débattons avec Giscard Kousséma, directeur général de Canal Futur Télévision. Giscard, bonsoir.
Bonsoir.
Freddy Mwamba, journaliste à la radio-télévision par satellite RTVS 1, un média privé qui émet aussi c'est Kinshasa. Freddy Mwamba, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aussi aux auditeurs mordus de la radio Capi.
Frédéric Ipani, journaliste correspondant du journal L'Observateur, basé à Kikwit. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à tous. Et tout de suite, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine. Et c'est avec vous, Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par cette incursion de l'armée rwandaise à Nyiragongo. L'avenir titre à sa une énième incursion rwandaise à Nyiragongo. Ce quotidien poursuit que pour la population, le passage facile à la frontière congolaise dans la région de Kibumba vers la localité de Kashizi est considéré comme une complaisance, une complicité de certains éléments congolais du 802e régiment qui sont des ex-CNDP. Raison pour laquelle, selon le journal, le gouverneur de cette province a saisi le mécanisme conjoint pour la vérification de toutes ces allégations. La référence annonce aussi dans sa livraison que le gouverneur du Nord Kivu confirme une nouvelle agression rwandaise au Nord Kivu. De son côté, le potentiel nous fait part de l'incursion des soldats rwandais dans le Nord Kivu, l'arbre qui cache une nouvelle rébellion. Ce sur quoi embraye le quotidien Le Phare en titrant Nouvelle frontière, revoici les Rwandais. Changeons de chapitre pour parler élections, élections provinciales, les deux préalables de l'opposition. C'est la manchette du journal Forum des As. Le quotidien rapporte que les opposants congolais conditionnent leur participation aux assurances de la CENI et à l'enquête internationale et indépendante sur la force commune de Maluku. De son côté, le journal La Prospérité signe processus électoral. RDC, l'opposition cherche Malu Malu. Elle tient à avoir des assurances avant de s'engager dans le processus électoral. C'est ainsi que le quotidien L'Avenir s'interroge, processus électoral en RDC, à quel jeu joue l'opposition. En outre, Forum des As signe divergence des vues sur la participation aux élections. La MONUSCO reste disponible pour favoriser un dialogue constructif.
Merci Kéline Kouté pour ce condensé. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité de la semaine, on a noté l'arrivée le 21 avril dernier du bateau ITB Kokolo à Mbandaka, 4 jours après son départ à Kinshasa. Freddy Mwamba, c'est une bonne nouvelle pour ça?
Moi je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que les populations de Mbandaka et autres, ces populations qui ne vivent que du produit du fleuve, voyaient un bateau un grand bateau comme celui-là à passer par là. C'est vraiment une bonne chose. Il faut voir une aubaine pour cette population qui va dorénavant commencer à voyager dans des bonnes conditions. Donc je pense qu'il faut soutenir ces genres d'actions.
Alors Giscard Kousséma, vous soutenez aussi ce genre d'action du gouvernement central?
Mais écoutez, je voudrais d'abord ici être modeste pour dire que pour un flux qui est aujourd'hui, qui demande un peu plus de bateaux que le seul ITB Kokolo, je crois que le bruit qu'il y a tout autour de ces vieux bateaux est démesuré, dans la mesure où il s'agit d'abord d'un vieux bateau, donc ce n'est pas une nouvelle acquisition. Et que aujourd'hui, le seul bateau ITB Kokolo ne peut pas résoudre l'ensemble de problèmes liés au trafic fluvial sur le fleuve Congo. Donc, limiter l'usage aujourd'hui du fleuve Congo, la desserte par ce seul bateau, je crois que c'est quand même une injure. On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Et que il y a beaucoup d'autres demandes qui sont liées justement au trafic. Donc moi je pense que c'est très modestement qu'on peut saluer ça, mais on ne peut pas à faire du tambour comme on a l'habitude de l'entendre depuis quelque temps.
Merci. Alors, Frédéric Ipani, vous êtes là-bas à Kikwit. Vous avez aussi entendu parler de ce premier voyage fluvial. Comment vous avez accueilli cela?
Berry, je crois que c'est une nouvelle importante, une solution pour les habitants de Mbandaka, de Kisangani et tous les autres villages qui sont le long du fleuve Congo. Je disais que c'est une affaire à encourager, c'est un projet à encourager. Il faudra que l'on attrape, pense maintenant à ressusciter les vieux bateaux qui sont encore au chantier, en faveur, par exemple, des rivières comme le Kassai et d'autres affluents du fleuve. Donc, c'est très important. Vous savez que c'est comme ici à Kikwit où nous nous trouvons, il y a la rivière Kwilu, qui, au moins avec les bateaux qu'il y avait à l'époque, pouvait quand même acheter plusieurs produits à partir de Kikwit, le long du Kwilu jusqu'à la rivière Kassai et Kinshasa. Mmh. Pour le moment, rien. Le lac aussi. Les lacs aussi, ce sont des populations riveraines qui n'ont plus retrouvé des bateaux qui, à l'époque, les aidaient à transporter, à évacuer les produits vers Kinshasa. Donc, c'est quand même une bonne chose. Il faut encourager l'ONATRA et le gouvernement et l'ONATRA à ressusciter d'autres bateaux pour que ce soit quand même, que ce soit un nombre important sur les fleuves et d'autres affluents.
Très bien. Voilà. Alors, Frédéric, rapidement, qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine chez vous à Kikwit?
Ah, Berry, l'actualité, c'est pratiquement le séjour du gouverneur ici à Kikwit. Ça fait longtemps qu'il n'a plus jamais été ici. Alors, il est arrivé, c'est pour. Il va séjourner ici jusqu'à la fin du mois. Mais la grande actualité, c'est l'inauguration du forage d'eau qu'il a installé à Kazamba, dans la commune de Kazamba. Et ce forage d'eau va pouvoir desservir au moins plus de 100 000 habitants du quartier 30 juin et dans la commune de Kazamba. Bon, ça fait longtemps que cette commune a été privée d'eau. Je crois qu'avec ce forage, ça va pouvoir aider cette partie de la population.
D'accord, merci beaucoup. Alors, l'autre actualité de la semaine, ça fait 25 ans depuis que la République démocratique du Congo est entrée dans le multipartisme. Donc, aujourd'hui, 24 avril 2015, ça fait 25 ans, comme je le disais. Quel bilan peut-on faire du multipartisme et de la démocratisation de notre pays? La question, je l'adresse à Jusqu'à Kousséma.
25 ans, c'est un quart de siècle. Le bilan, il est largement négatif. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan politique, même sur le plan social? On a plutôt régressé au lieu de progresser. Et même ces acquis du 24 novembre 90, on ne les voit presque pas. Vous le savez aujourd'hui, parmi les indicateurs de la démocratie, il y a le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, la liberté d'expression et tous les autres. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un cliché reconnu au plan international qu'il y a de l'intolérance politique ici, il y a le monolithisme politique, et que les libertés individuelles, même les libertés d'expression ne sont pas garanties, et que même à cette époque-là des 90, jamais on n'avait vu de médias fermés sans raison pendant plus de 5 ans, comme c'est le cas pour Canal Futur et pour les autres médias. Moi, je pense que le bilan est très négatif. On vit en réalité du mobutisme sans Mobutu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont été avec le maréchal, qui sont en train de nous imposer une autre forme de dictature, mais plus cynique encore. Je crois qu'il y a du long chemin à parcourir. Le bilan, il est très négatif au plan de la démocratie, au plan social, au plan politique, et que le Congo d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Congo des 90, même si à l'époque, le plus grand problème était la démocratie, mais au plan social, au plan sécuritaire, il y avait une certaine stabilité. Tout de même, il y avait une certaine stabilité, il y avait quand même une certaine fierté, le pays était unifié, jamais on entendait des expressions comme c'est le cas maintenant. Je pense qu'on a vraiment régressé sur tous les plans et que le bilan, il est très négatif. En 25 ans, nous n'avons rien fait, bien au contraire, nous avons reculé.
D'accord. Alors, Frédéric Ipani, en 25 ans, nous avons reculé. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez aussi?
Non, Berry, je crois qu'on ne doit pas vraiment dire qu'on a régressé totalement. Donc, la démocratie, on a atteint quand même un certain niveau, mais pas à un stade voulu par tout le monde. Il y a eu quand même quelque chose qui a été fait donc, depuis ces 50 ans, tout ça. Bon, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment totalement négatif, rien n'a été fait.
Et qu'est-ce que vous considérez comme un acquis en 25 ans?
On me dit aujourd'hui que le pouvoir ne permet pas à ces partis de se mouvoir facilement, mais c'est quand même quelque chose. Donc, il y a la liberté, d'expression malgré la fermeture de quelques radios du pays, comme l'a souligné tout à l'heure Giscard. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Donc, les partis peuvent s'exprimer, bien que, bon, ça arrive que quelque part qu'il y ait quand même du couac, mais sinon, c'est quand même quelque chose.
D'accord, merci beaucoup. Alors, Frédéric, Freddy Mwamba, 25 ans, quel bilan vous vous dressez de la démocratisation et du multipartisme en RDC?
Moi, je pense que même si nous ne sommes pas en train de pratiquer de la démocratie en République démocratique du Congo à la perfection, il y a à redire, certes, mais il y a quand même un bond en avant. Parce que parmi les éléments qui sont liés de façon intrinsèque à la construction d'un État démocratique, nous avons, par exemple, les débats contradictoires, la tolérance, les élections qui sont même l'expression la plus profonde de cette même démocratie. À l'époque de Mobutu, vous le savez bien, il n'y avait pas des élections. L'unique accession au pouvoir, c'était soit il y avait des coups d'État, lui-même Mobutu a accédé au pouvoir par coup d'État, mais aujourd'hui, si nous pouvons arriver à organiser des élections, Mobutu organisait quel genre d'élections? Il ne permettait pas à tout le monde de venir. Je me dis qu'il y a un bond en avant en ce qui concerne la démocratie. Les pays sont en train de se relever peu à peu, parce qu'aujourd'hui vous pouvez trouver des gens en train de critiquer les pouvoirs en place, vous comprenez, ce qui ne se faisait pas dans l'État. Donc c'est en phase embryonnaire, nous sommes en train d'y aller mollo mollo, d'aller crescendo, alors nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas sur toute la ligne la démocratie en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup. Alors tout de suite nous passons à notre premier thème de la soirée qui concerne justement l'incursion des armées rwandaises et ougandaises. Le gouverneur du Nord Kivu a confirmé jeudi 23 avril l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais, notamment dans la localité de Kasizi en territoire du Nyiragongo. Selon Julien Paluku, ces soldats de Rwanda Defense Force, RDF, sont estimés à une centaine. Gisèle Cage nous en dit plus.
Tous les services spécialisés congolais confirment l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais depuis dimanche dernier. Ces militaires armés sont estimés à une centaine, selon le gouverneur du Nord Kivu. Hier, les forces armées de la RDC ont eu même des escarmouches avec ces soldats de RDF, Julien Paluku.
Je confirme l'infiltration des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais, à l'intérieur du territoire national, à presque un kilomètre sur la colline qu'on appelle Musongoti. Et ce mercredi, lorsque les populations et les gardes de parc ont alerté l'armée congolaise, elle a pu organiser une patrouille pour essayer un peu de vérifier. Et c'est en voulant approcher l'unité de l'armée rwandaise que nos unités ont essuyé des coups de balle.
Un soldat FRDC a été grièvement blessé au cours de ces échanges de tirs. D'autres sources, dont la société civile du territoire de Nyiragongo, confirment elle aussi la présence de soldats rwandais depuis dimanche dernier à Rugano. C'est dans la localité des Gasizi, territoire de Nyiragongo. Le gouverneur du Nord Kivu dit avoir écrit officiellement au mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL pour vérifier ces allégations. Si celles-ci sont confirmées, Julien Paluku souhaite que ces soldats rwandais regagnent leur territoire et que cessent les provocations. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Le gouverneur du Nord Kivu a annoncé par ailleurs le déploiement des FARDC pour sécuriser les frontières congolaises. Entre-temps, la société civile de Beni dénonce l'incursion depuis 3 jours des hommes armés habillés en tenue de l'armée ougandaise UPDF dans plusieurs villages du secteur de Rwenzori. Selon cette structure citoyenne, ces hommes armés sont installés dans les villages de Kalealea, Kilimandera et Mumbiri. L'administrateur du territoire de Beni parle d'une centaine d'hommes présents dans cette zone. Marcel Papi Mukeba nous donne des détails.
La première incursion serait intervenue mardi dernier dans les villages de Kalealea. Selon la société civile du territoire de Beni, des centaines d'hommes armés portant la tenue de l'armée ougandaise UPDF ont traversé la frontière congolaise à partir du district ougandais de Kasese avant de se diriger vers les villages congolais de Mumbiri. D'après la même source, c'est jeudi et notre groupe, en provenance du camp militaire de Butama en district ougandais de Bundibujo, est entré dans les villages de Kilindera. L'administrateur du territoire de Beni confirme cette incursion. Amissi Kalonda parle d'une centaine d'hommes armés présents dans la zone.
Il y a présence désormais identifiée à l'UPDF de l'Ouganda avec armes estimées à plus ou moins 200 éléments dans l'espace du territoire de Beni, dans les villages d'Alialia, Mumbiri. La population nous a confirmé ça. Donc il y a cette présence d'hommes et nous, on ne sait pas les raisons qui se trouvent là-bas.
Pour l'instant, aucune réaction des responsables des FRDC à Beni. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Alors Freddy Mwamba, je vous rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision par satellite RTVS 1, un média privé de Kinshasa. Quelle lecture vous faites de cette situation?
Non, je suis vraiment très peiné par cette situation de sécurité délétère qui règne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis en train de me dire, de m'interroger. Je me dis, quelles sont les motivations souterraines qui font que le Rwanda et l'Ouganda continuent toujours à attaquer la République démocratique du Congo? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas aussi attaquer les Rwandais? Quand est-ce que ça va arriver? Pour ma part, je suis en train même de proposer qu'on puisse même mettre en place une base militaire à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et même entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda.
Et vous pensez que ça va résoudre le problème?
Moi, je pense que ça va résoudre les problèmes à mon humble avis. Et puis qu'il s'effectue au niveau de cette partie de la République démocratique du Congo des parades militaires de la façon la plus intense et dense, de telle sorte que nous puissions dissuader nos voisins, faire peur à nos voisins. Nous ne devons pas continuer. Quand est-ce qu'on parlera de l'infiltration ou bien de l'incursion des militaires congolais au Rwanda ou soit au Burundi? Nous sommes quand même un grand pays. On ne va pas continuer à être humilié jusqu'à ce point. Et il y a aussi à boire et à manger entre l'Ouganda et le Rwanda. À un certain moment, lorsqu'on était en train de mener des attaques contre les ADF, Nalu, la MONUSCO était en train d'insister sur le fait qu'il fallait prioritairement commencer par les FDLR. Parce que à ce moment-là, la MONUSCO avait déjà établi un plan conjoint avec l'armée congolaise. Et puis, le gouvernement congolais a estimé qu'il devait d'abord commencer avec les ADF Nalu, puis commencer avec les FDLR. Il s'est fait que quand le gouvernement a commencé avec les FDLR, il a commencé à évoluer en solo. C'est encore un autre problème. L'autre problème aussi, où sont partis les drones de la MONUSCO? Nous sommes dit que lorsque les drones sont arrivés, on se disait, bon, ça va quand même résoudre un tant soit peu le problème que nous avons dans cette partie est. Il y aura une certaine clarification au niveau de cette ligne séparatiste. On saura qui est chez lui, qui n'est pas chez lui, qui est entré, à quel moment il est entré. Où sont les résultats des drones de la MONUSCO?
Mais si on en croit au propos du gouverneur Julien Paluku, il a d'ailleurs affirmé hier lors d'un point de presse qu'il s'agissait là d'un nouveau mouvement rebelle qui est né à RDC. Est-ce qu'on partage cet avis?
Bon, moi je ne partage pas cet avis. Il ne s'agit pas d'un nouveau rebelle. S'il s'agissait de nouveaux rebelles, ça devait être des Congolais en réalité. Mais ça, ce sont des Rwandais. Je suis vu un habitant de Kibumba en train de dire que les samedis à 20h, il a vu les Tutsis en train de venir du Rwanda. Ils ont traversé les frontières du Rwanda sur les collines et il y a eu même des affrontements au niveau des Tianzhou entre nos militaires et les militaires rwandais. Ce sont des militaires rwandais. On parle de militaires. Parce que les habitants qui sont au niveau de la frontières savent qui est congolais et qui n'est pas, parce qu'ils vivent chaque jour là-bas, ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de se fréquenter avec leurs frères qui sont de l'autre côté. Donc eux sont mieux placés pour nous dire s'il y a eu véritablement incursion ou pas.
D'accord.
Mais quand ils nous font de telles déclarations, ça veut dire qu'il y a eu réellement incursion. Alors il va falloir qu'on mette fin à cela pour que nos frontières soient véritablement sanctuarisées.
D'accord. On va donner la parole à Giscard Koussema. Giscard, je rappelle que vous êtes directeur général de Canal Futur Télévision, une télévision qui n'émet pratiquement plus ici à Kinshasa. Quelle analyse vous faites de cette incursion ou de ces incursions?
Écoutez, notre analyse est simple, c'est que cette question des incursions répétitives des armées étrangères au pays est traitée avec beaucoup de légèreté de la part du gouvernement central. Je m'en veux pour preuve d'abord cette déclaration du gouverneur. Donc apparemment, c'est un fait divers qui est laissé entre les mains du gouverneur qui se débrouille, alors que le gouvernement central est resté à fond. Aucune autorité ne parle, la hiérarchie est muette, ne dit rien. Donc comme si tout allait, vous ouvrez la télévision, tout est normal. Alors que pour de petits faits divers, c'est tout le monde qui vient s'offrir un spectacle. Non, je pense que c'est grave. C'est quand même très grave. Ça fait combien de temps que les armées étrangères entrent au Congo? Je voudrais vous ramener à l'année 2009, lorsque le président de l'Assemblée nationale s'était plaint de la présence de militaires rwandais. Quelle était la réaction?
À l'époque,
aujourd'hui, ce sont les mêmes faits qui nous rattrapent. Rappelez-vous du cinéma qui a été offert l'année qui suivait, vers l'année 2010. On a pris toute la presse de Kinshasa, on amène là-bas, on fait défiler pour dire « Ok, les militaires rwandais rentrent ». Il n'y a pas longtemps, on a signalé la présence des armées rwandaises et burundaises installées à Uvira, sur la plaine de la Ruzizi. Quelle a été la réaction des officiels? Rien de plus, bien au contraire, c'est ce silence-là qui laisse croire finalement qu'il y a une certaine complicité. D'ailleurs, plusieurs rapports des organismes autant nationaux qu'internationaux ont fait état des complicités des officiers supérieurs de notre armée. Mais rien n'est fait. Bien au contraire, ils sont récompensés en grade. Alors, comment voulez-vous que la population ne se sente pas frustrée? Comment voulez-vous que la population ait confiance en ces gouvernants lorsque ceux-ci ne sont même pas en mesure de se prononcer et de prendre des mesures qui s'imposent pour sécuriser les territoires nationaux?
Alors jusqu'à
tout à l'heure, nous avons commencé par faire le bilan des 25 ans. Voilà un domaine. Finalement, on ne sait plus aujourd'hui parce que les infiltrations viennent de partout, parce que les voisins ont constaté qu'il y a en face un manque de leadership. Il y a des responsables amorphes qui ne disent aucune mesure, bien au contraire, c'est eux qui vont prendre la défensive.
D'accord. J'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que finalement ce n'est pas la faiblesse de nos forces armées de la RDC face à cette situation?
Mais c'est une évidence. Mais il y a une hiérarchie. Notre armée est tout de même dirigée. Il y a un gouvernement, il répond devant un gouvernement. Et qui ne fait rien et qui ne dit rien. Et c'est le pauvre gouverneur de province qui dénonce, et puis ça s'arrête là. Bien au contraire, on cherche des phrases, des tournures alambiquées pour venir faire comprendre aux gens que le gouverneur s'est trompé ou que la société civile, la population qui est là, se trompe. Donc moi, nous pensons finalement que trop, c'est trop. Cette situation perdure simplement parce qu'il y a un manque de leadership. On D'accord. ne peut pas résumer ça autrement que par cela.
D'accord. Alors, on va donner la parole maintenant à Frédéric Ipani. Frédéric, je rappelle que vous êtes correspondant du journal Observateur, vous êtes basé à Kikwit. Quelle est votre lecture à vous sur ces incursions des armées rwandaises et ougandaises?
Cette nouvelle, c'est quelque chose qui a paralysé pratiquement les habitants de ce côté, parce que chaque fois que l'on partage l'information avec des amis, eh bien, c'est la tristesse, quoi. Les choses ne marchent pas bien, tout le monde est mécontent. Parce qu'on est en train de se demander pourquoi les Rwandais et les Ougandais choisissent seulement ces temps, hein, pendant qu'on s'approche des élections, pourquoi ils choisissent ces temps pour faire des incursions en RDC? Et de deux, au niveau de notre armée, je crois qu'il y a un problème qui ne va pas. Je le disais la fois passée, je disais que le Nord et le Sud Kivu formaient pratiquement une région. Et en ce moment, une bonne partie de l'armée congolaise ainsi que celle de la MONUSCO se trouve dans le nord et sud du Kivu. Alors comment ces gens-là peuvent se permettre de faire des incursions en RDC pendant que dans cette région, on retrouve des militaires congolais? Donc ça, c'est un problème, on ne comprend pas très très bien. Les localités comme le Kibumba, Lomama, ce sont des localités qui doivent être tenues par l'armée congolaise. Et comment ces gens peuvent s'infiltrer à ce niveau-là? Autre chose, c'est le moment pour la communauté internationale de poser la question à Paul Kagame et à Yoweri Museveni, ceux qui nous agressent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Est-ce que les Congolais leur doivent quelque chose ou c'est quoi? Pourquoi ces incursions? Au moment où nous sommes en train de préparer des élections, Maintenant, il nous distrait, nous devons nous occuper de la guerre. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Vous savez que la communauté internationale a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe dans la région du Grand Lac, notamment en RDC. Vous vous rappelez que à l'époque, Jakaya Kikwete, le président tanzanien, il avait demandé que le président rwandais et ougandais puissent s'occuper de leurs hommes. Les Rwandais puissent s'occuper des FDLR, les autres là, des ADF, tout ça. Mais rien n'a été fait, il a été mal compris. Personne n'a suivi son cri de détresse. Hein? On a préféré plutôt laisser. Aujourd'hui, on est en train de faire la traque des FDLR. Mais ce sont des Rwandais. La communauté internationale devait normalement demander plutôt à Paul Kagame de récupérer ses frères rwandais et de tenir peut-être leur dialogue chez eux là-bas pour trouver une solution parce qu'après nous sommes des Rwandais. Mais maintenant nous sommes en train de subir les affres de la guerre.
D'accord.
C'est nous imposé par ces gens. Je trouve que c'est le moment pour la communauté internationale d'intervenir, de demander à Paul Kagame d'arrêter sa folie et à Yoweri Museveni. D'arrêter donc tous de leur folie.
Okay.
Oui.
Alors maintenant, il y a une question sur laquelle je voudrais qu'on essaie de réfléchir un peu rapidement. Quelle peut être la solution pour en finir une fois pour toutes avec toutes ces incursions? Je commence d'ailleurs par vous, Frédéric, au niveau de Kikwit.
Je crois que la diplomatie congolaise doit maintenant parler. Non seulement la diplomatie, mais il y a l'armée qui doit prendre ses responsabilités. C'est le moment de prendre ses responsabilités.
Mais Giscard a évoqué le fait que l'armée est quand même faible.
De Laurent Désiré Kabila. Quand il parlait de sa guerre, il disait non, la guerre va rentrer là où elle a commencé. Je crois que le Congo doit se préparer pour attaquer le Rwanda. Ça, c'est, si on ne peut pas faire ça, alors c'est malheureux pour la République démocratique du Congo. La même chose aussi pour l'Ouganda. Nous sommes quand même un grand pays. Il faut qu'on réorganise l'armée et qu'on montre à ces gens-là qu'ils ne peuvent pas nous. Ils ne sont pas capables de nous attaquer. Hein? Au lieu qu'on garde le silence, qu'on. Hein, je pense qu'il faut que la diplomatie parle au même moment avec les armes.
Ok. Alors, Giscard Koussema, Frédéric Ipani propose la diplomatie congolaise et en même temps la diplomatie militaire. Est-ce que vous êtes du même avis pour en finir une fois pour toutes avec toutes ces incursions?
Il existe des plans de sortie des crises qui ont été proposés depuis la première législature de la Troisième République. Un plan de crise qui prenait en compte effectivement les aspects militaires, les aspects diplomatiques, mais aussi les aspects économiques, rappelez-vous. Parce qu'on devrait normaliser, vous le savez, nous sommes contraints à vivre avec ces voisins-là. Nous les avons hérités de la nature, personne ne va déplacer son pays pour éviter un voisin. Donc, rien n'a été fait jusque-là. Rien du tout. Bien au contraire. Donc, nous pensons que cette question est complexe, devrait même faire l'objet de débats sérieux avec tous les partenaires. Mais ici, on a l'impression, depuis qu'on a instauré ce système, de pouvoir primer les criminels. Ok? Donc, aujourd'hui, ceux qui nous gèrent, la plupart, ce sont des chefs de guerre. Le Mende, les Kinké et tous les autres, on connaît. Ce sont des chefs de guerre et qui pensent accéder au pouvoir par ces voies-là. Et lorsque on vient de ce genre de mouvement de rébellion, non seulement qu'on est reçu à Kinshasa sur tapis rouge, mais on garde ses galons et on dirige parfois l'armée. Regardez aujourd'hui ce qu'ils nous gèrent au plan politique et au plan militaire, quel passé ils ont. Allez voir leur CV, ce sont des personnes issues de ces rébellions et les criminels. Ceux qui croupissent dans des prisons, c'est ceux qui essayent de se battre par des voies démocratiques, par la simple parole et non pas des actions militaires. Donc nous pensons que cette question est complexe, mais aussi facile à la fois, si l'on prend en compte tous ces aspects. Combien de résolutions ont été prises au plan international pour résoudre cette crise avec les voisins? En prenant en compte les aspects diplomatiques, les aspects militaires, les aspects économiques. Et rien n'a été fait pour cela.
Donc
voilà
pour vous,
pourquoi nous pensons que.
Donc pour vous, c'est.
Le Congo ne va pas continuer à pleurer tant qu'il faut passer à l'action.
D'accord.
Et l'action ne peut être posée que lorsqu'il y a un leadership fort.
D'accord, ok. Je comprends que vous avez besoin qu'on puisse passer à l'action. Freddy Mwamba, vous avez entendu Frédéric Ipani dire qu'on a besoin de la diplomatie forte en même temps l'opération militaire. Giscard Koussem a demandé qu'on passe à l'action avec un leadership fort. Et vous, à votre niveau, vous pensez à quelle piste de solution?
Moi, je pense qu'il faut plus travailler ou cristalliser les côtés bellicistes, les côtés belliqueux, je pense.
Okay.
Il faudra que nous puissions plus équiper notre armée, faire de sorte que cette armée-là soit à mesure de combattre tous les éléments extérieurs qui viennent nous attaquer sur notre territoire. C'est ça qui fait même l'identité, ça fait partie même de la souveraineté de notre État. Comment nous allons dire que nous sommes un pays souverain, un pays indépendant?
Donc si vous êtes d'accord avec Giscard qui demande ou qui a une...
Moi, je pense qu'il faudra que nous puissions nous attaquer à ceux qui viennent nous attaquer. C'est-à-dire que notre armée
puisse... Mais pour ça, ça passe par
se
quoi?
Défendre. Oui.
Mais pour ça, ça passe par quoi?
Pour ça, ça passe par il faudra que notre armée soit encore davantage organisée.
Mmh. Mieux. Donc structuré. Vous êtes d'accord avec... En fait,
ça organisé
propose...
et mieux structuré pour faire face à toutes ces attaques contre notre pays.
Donc c'est la même chose avec ce que Giscard dit, un leadership fort. Et de l'autre côté, quand Frédéric
quand
parle...
Quand on parle d'un leadership fort, là nous sommes en train de viser des individus. Moi j'aimerais que nous puissions rester dans les idées, que nous puissions faire débattre sans faire allusion aux individus, dire un leadership fort et autres. Non, moi je pense qu'il faudra que notre armée puisse prendre les choses à main, que cette armée puisse comprendre que nous sommes face à l'image même qu'il faudra sauvegarder de la République démocratique du Congo, et que cette armée fasse un effort pour que nous puissions redorer notre image d'antan. À l'époque, notre pays était craint. À l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas se jouer de la ère du Zaïre, parce qu'on savait que les Zaïres avaient une armée forte. Et à ce titre-là, Mobutu jouait un rôle pivotant ici en Afrique centrale. C'était un homme qui était créé à cause de son armée. Et je pense qu'il faudra que nous puissions
arriver à ce stade,
rétablir cette image-là, restaurer cette image qu'on avait dans les temps d'un grand pays au cœur de l'Afrique. Un pays pittoresque, un pays robuste au cœur de l'Afrique.
Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, nous passons maintenant à notre deuxième sujet qui concerne le processus électoral. L'opposition politique congolaise a suspendu sa participation aux élections provinciales, municipales et locales. Elle conditionne son retour à un certain nombre de préalables, notamment la révision du calendrier électoral, le décaissement des fonds nécessaires pour organiser les élections, et aussi elle exige une enquête internationale et indépendante sur l'affaire fausse commune de Maluku. Jeff Ngoyi pour le reportage.
L'opposition décide de rejeter l'activité en rapport avec le dépôt des candidatures aux élections provinciales telles qu'annoncées par la CENI. Le modérateur de cette opposition, Martin Fayoulou, fait savoir qu'il faut d'abord attendre l'issue de la rencontre sollicitée avec la CENI pour se déterminer.
Dans le souci de contribuer efficacement à un processus électoral inclusif et apaisé, nous avons saisi la CENI le vendredi 16 avril courant pour une rencontre ultime. Celle-ci nous permettra d'obtenir des assurances sur le prérequis avant de nous engager dans le processus du dépôt des candidatures.
Le président de l'ATD, José Makila, parle de ce prérequis.
La CENI a demandé 46 millions de dollars. Jusqu'à présent, on leur avait remis 5 millions et que la CENI a refusé. Donc la CENI n'a pas l'argent pour organiser les élections au jour d'aujourd'hui. Des deux, les élections locales, provinciales, municipales et consorts. On n'a pas encore délimité les villes parce qu'on aura des mairies. Je vous donne l'exemple de Guémena chez moi. C'est une mairie. Mais il n'y a pas une délimitation. Donc la loi n'est pas encore sortie. Qu'est-ce que l'opposition veut actuellement? C'est les élections provinciales.
L'opposition exige également une enquête internationale et indépendante sur ce qu'elle qualifie de fausses communes de Maluku avec exhumation des corps et prise d'ADN.
Merci beaucoup Jeff Ngoye. Du côté de la majorité au pouvoir, le Congrès national congolais qualifie ce comportement de gravissime, d'anticonstitutionnel et d'antidémocratique, étant donné que le calendrier électoral est une prérogative exclusive de la CENI. Je me tourne vers mes invités. Giscard Koussema, est-ce que vous comprenez l'attitude de l'opposition?
Écoutez, avant de répondre, je voudrais d'abord relever un malentendu. J'ai l'impression que les faits ont été reportés, ont été déformés, ou que le reportage de notre estimé Jeff Ngoy a été mal compris. Voici ce qui s'est passé. Le point de presse de l'opposition a porté sur trois points. Je vous rappelle que j'ai couvert cet événement et j'ai la copie de la locution. Les points de presse apportaient sur trois points, sur les élections, sur la fosse commune et sur l'insécurité. Et pour chaque point, il y a eu un certain nombre de qu'on peut considérer comme de recommandations ou résolutions. Donc il n'a jamais été dit, je mets quiconque au défi, il n'a jamais été dit que l'opposition a suspendu sa participation aux élections parce qu'elle exige une enquête. Non, il n'y a pas un lien. C'est lorsque l'opposition a abordé cette question sur la, après avoir clôturé bien sûr les chapitres sur les élections, qu'elle s'est prononcée sur l'affaire fosse commune. Donc il n'y a pas un lien. J'ai les documents et vous pouvez y accéder également. Donc je pense que ces faits ont été déformés et c'est ce qui fait croire à certains qu'il y a une certaine mauvaise foi de l'opposition. Donc cela est vérifiable, je l'ai dit, par honnêteté professionnelle. Je suis journaliste, j'ai été là, j'ai couvert l'événement et j'ai la copie de l'allocution. D'ailleurs, Martin Fayoulou, le modérateur du jour, avait bien fait de mettre chaque fois du chapitre sur chaque question.
Alors, jusqu'à
ceci
rapidement,
dit,
jusqu'à...
je reviens maintenant à votre question.
Oui, pour dire,
faut comprendre la démarche. Quelle est la finalité de la démarche de l'opposition? Vous le savez, depuis plusieurs mois, les responsables de l'opposition ont réfléchi sur les projets du calendrier en prenant en compte les contraintes. Et jusqu'à dire finalement, comment peut-on rendre... Lorsque la CENI a parlé de ces 23 contraintes, je pense qu'il appartient à chaque groupe de voir quelle est sa part de contribution pour arriver à enrayer le plus grand nombre de contraintes. Et donc, il était légitime pour l'opposition, en tant que partie prenante, et qui est d'ailleurs représentée à la CENI, de pouvoir s'approprier et de réfléchir. Ils ont réfléchi et ils ont fait une contre-proposition. Ils ont même été déposés à la CENI. Mais c'est classé sans suite. Il n'y a rien, on fait comme si de rien n'était, bien au contraire, c'est toujours le discours par défi, et on fait comme si. Mais je crois que l'opposition soulève de vraies questions. C'est vrai que sa démarche, personne ne s'oppose, je n'ai pas suivi depuis qu'ils ont commencé, même dans leur alternative, l'opposition n'a jamais dit qu'elle ne participerait pas au provincial. Non, elle soutient les élections provinciales. Elle soutient le renouvellement du Sénat. Mais on voudrait postposer les élections provinciales.
D'accord.
Je crois que pour l'instant, c'est un moyen de pression pour obtenir les dialogues. Et je pense que ces acteurs vont se retrouver incessamment avant la fin pour évaluer. Si on considère que, ok, ils sont toujours dans leur logique du défi, ils prendront tout le monde à témoin, ils feront une communication et vont se comporter en connaissance des causes. Mais dans les uns comme les autres, je n'ai pas vu une volonté de ne pas pouvoir participer aux élections provinciales.
D'accord.
Ils vont
Merci.
Y aller.
Merci.
Mais il fait une sonnette d'alarme.
Oui.
Ils ont fait des analyses. Aujourd'hui, des mêmes analyses sont faites par des personnalités du pouvoir également, de la majorité. Vous connaissez l'honorable Christophe
Lautrin,
c'est l'un des architectes de cette constitution.
Je vais vous redonner la parole. Je vais vous redonner la parole pour le dernier tour de table et conclure parce qu'on va arriver pratiquement vers la fin de l'émission. Frédéric Ipani, quelle est votre analyse sur l'attitude de la majorité, parce que la majorité au pouvoir à travers le Congrès national congolais de l'honorable Plus Mwabilou a affirmé qu'il n'est pas question de dialoguer avec qui que ce soit sur le réaménagement du calendrier électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Frédéric, vous êtes avec nous? Bon, on aura Frédéric, la réalisation me fait signe que Frédéric est parti, on va le rappeler d'un moment à l'autre. Alors Freddy Mwamba, est-ce que vous comprenez l'attitude de l'opposition qui réclame un dialogue et du côté de la majorité, on dit qu'il n'est pas possible de pouvoir réaménager le calendrier électoral?
Moi je pense que l'opposition doit en principe participer aux élections pour mettre au défi la CENI qui dit qu'elle est prête pour organiser les élections et qu'en dépit des contraintes qui s'imposent, les élections vont se dérouler sans désemparer. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas opportun de chercher, par exemple, à suspendre ou à suspendre la participation, qu'ils participent aux élections. Et lorsque nous allons
vous avez entendu Giscard, il a dit qu'il n'est pas question de suspendre, ils ont juste posé des préalables.
Bon, moi je pense que nous sommes en train, c'est simplement un changement de rhétorique. C'est un jeu de mots. En réalité, l'opposition ne veut pas aller à ces élections dans ces conditions. Des conditions dans lesquelles elles sont organisées, vous avez suivi, ils ont dit sur 45 millions, il n'y a que 5 millions, ils ne croient pas du tout à ces élections. C'est pourquoi ils sont en train de poser, c'est ça la vérité, même si essayer un peu de calmer, qui Gista veut essayer un peu de calmer les choses pour dire que l'opposition veut participer, mais elle pose des préalables. Ces préalables-là sont justement liés même à l'organisation, à la participation de l'opposition.
Est-ce que selon vous l'opposition a raison de poser ce genre d'action?
L'opposition, oui, elle a raison parce que l'opposition est là pour rôle de faire, de pousser à la CENI actuellement, ou soit les pouvoirs en place à pouvoir changer les fusils d'épaule lorsque les choses ne marchent pas. C'est un peu de remettre le pouvoir sur les rails. Les préalables qui ont été posés par l'opposition sont des préalables qui sont fondés. Mais à partir du moment où les autres protagonistes au processus n'adhèrent pas à cette idée, quelle est la solution des réchanges? La solution des réchanges, c'est laquelle? La solution des réchanges, c'est laquelle? N'est pas participer ou continuer à participer, mais tout en réclamant. Donc, d'accord, on ira des réclamations et en réclamation, et finalement, on risque de nous retrouver peut-être dans des revendications populaires où nous avons peut-être la population qui est incitée à aller dans la rue parce que les élections ne marchent pas, alors que nous avons déjà entamé quand même une phase importante pour la démocratie de notre pays.
D'accord.
Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses et j'analyse les choses, que l'opposition vient de participer. C'est tout un pan entier. Moi, je pense que c'est tout un pan entier des chances, des réussites de l'opposition qui s'écroule si l'opposition cherche d'autres moyens parce qu'elle a besoin de l'alternance.
D'accord. La réalisation me fait signe que Frédéric Ipa n'est toujours pas là, donc on va devoir conclure cette émission avec vous, Freddy et Giscard. Giscard, en guise de conclusion, quelle peut être finalement cette piste de sortie pour que et la majorité et l'opposition aillent tous vers les élections apaisées?
Les uns les autres devraient se rappeler que le processus électoral est voulu inclusif et apaisé. Et donc, le caractère inclusif voudrait que toutes les parties prenantes y participent. Aujourd'hui, l'opposition est assez représentative de la population. Le vice-ministre de l'Intérieur, Beauchamp, nous disait il y a quelques jours, et corroboré d'ailleurs par une étude indépendante, que sur le plan national, il n'y avait que 4 partis politiques qui ont une emprise nationale. Et je veux qu'on vous fait constater que 3 de ces 4 partis politiques sont de l'opposition. Le MLC, l'UDP et l'UNC. Et donc, lorsque ces 4 partis politiques prennent position, il n'appartient pas à un parti satellite, soit-il de la majorité, de répondre. Et donc, on a toujours dit que la CENI est une institution indépendante. Et donc, laissez la CENI répondre. Il n'appartient pas à un parti malais,
d'accord,
de pouvoir répondre simplement parce qu'il est de la majorité.
Merci.
C'est cette connivence-là qu'on ne veut pas.
D'accord.
Donc, les élections constituent à travers le monde une affaire de tout le monde et qui... Il est d'ailleurs rationnel et logique que
les partis prennent. Merci Giscard, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission. En guise de conclusion, rapidement, Freddy Momba, parce qu'on arrive vers la fin de notre émission. Quelle est selon vous la piste de solution pour que les deux partis aillent aux élections apaisées? Rapidement, en quelques secondes.
La piste de solution, c'est que toutes les parties acceptent de monter dans les trains des élections et que dans ces trains des élections, que les uns et les autres essaient un peu de converger leurs vues dans les sens d'améliorer les processus pour que chacun se reconnaisse au travers ces élections.
Merci voilà. beaucoup. Et c'est la fin de cette tribune de la presse. Kéline Koutema a aidé à la préparation et merci à William Lungamba qui est à la prise de son. Retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.